Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On continue ce matin notre série sur les territoires sans ménagement. L'émission de ce matin pourrait s'appeler « Dedans, dehors ». À force de les côtoyer, on ne les voit presque plus, ces zones commerciales qui fleurissent à la sortie et autour de toutes les villes françaises de toute taille. Je dis qu'on ne les voit presque plus, j'exagère, parce que de fait, elles sont assez visibles, assez évidentes et ostensibles. En revanche, ce qu'on n'avait pas vu venir et qui est en train de gagner du terrain de manière tout à fait étonnante, c'est une sorte de réplique aggravée de ces boîtes à chaussures, comme on les avait surnommées. Des boîtes à chaussures qui ont aujourd'hui atteint des dimensions absolument sidérantes. Ce sont des dizaines et des dizaines de mètres de long, sans une seule fenêtre, totalement aveugle, avec simplement des sortes de bouches qui accueillent les camions. C'est à peu près tout ce qu'on voit. Ces entrepôts, il y en a de plus en plus. Philippe Chansigaud, vous êtes le président de l'association ADER, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Vous vous intéressez à tout ce qui est atteinte au paysage. Et vous vous êtes penché sur cette question.
Tout à fait. L'association a été confrontée au développement d'une zone artisanale en piémont d'un massif classé, protégé, piémont de la Montagnette. Et là, on a vu se mettre en place aujourd'hui, après 10 ans de procédure, une zone qui fait quasiment 8700 m2, dédiée initialement pour de la production de pommes et qui, en fait, derrière...
La production de pommes, ouais, c'est-à-dire du stockage de pommes.
Oui, de stockage de pommes. Et se cache derrière, en fait, une activité commerciale où c'est de l'import-export de produits de verger. Donc, on est intervenu pour remettre en question les premiers hangars. Et à partir de là, on a d'abord découvert que le début de la construction s'est fait sans permis de construire. Et sachant que le dossier allait être un peu difficile, puisque un des propriétaires de ces hangars n'était autre que le maire d'une petite ville, maintenant à Tarascon, qui est Mézoargues. Il fallait effectivement à ce moment-là prendre un avocat qui pouvait suivre de manière, je dirais, très précise et concise cette affaire. Et donc on a demandé à Maître Farge-Palais d'intervenir dès le début de la procédure, puisque la procédure, ça a été un référé pour demander l'annulation de la construction. En tout cas pour sursoir à la construction.
Maître Anne Farge-Palais, vous êtes donc avocate spécialisée dans les questions environnementales. Est-ce que cette affaire que Philippe Chansigaud vient de nous résumer brièvement est une affaire classique, courante? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces hangars qui poussent et est-ce qu'il y a diverses actions qui sont entreprises pour essayer d'endiguer ce mouvement?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs perversités et perversions du système, puisque dans ce cas de figure, l'affaire que nous appelons le GAEC-Lefèvre, nous avons un GAEC constitué d'agriculteurs qui, dans l'urgence, a souhaité construire des hangars d'une très grande surface, a même commencé la construction avant d'avoir un permis de construire. Et puis ensuite, après avoir construit deux premiers hangars, on demandait des extensions, puis de nouvelles extensions. Il y a eu 4 permis de construire. On en reparlera après, puisque 3 sur les 4 ont été annulés. Mais nous avons vu aussi apparaître des hangars liés à la pose de panneaux photovoltaïques. Donc des agriculteurs ont fait construire des hangars par des sociétés qui leur a vendu clé en main des hangars avec des panneaux photovoltaïques. La société, utilisant les panneaux photovoltaïques et récoltant l'électricité produite, et en contrepartie, construisait le hangar aux agriculteurs. Alors un certain nombre d'agriculteurs ont vu là enfin l'opportunité de faire construire des hangars dont ils avaient d'ailleurs peut-être pas besoin, mais qu'ils n'avaient pas à financer, moyennant des baux emphytéotiques. C'est-à-dire que la transmission de la propriété se faisait au bout de 15-16 ans à l'agriculteur, et pendant toute cette période-là, la société elle-même encaisser et récolter la production d'électricité. Donc ça, c'est une des perversions de ces constructions.
Il y a quelque chose de vertueux à faire du photovoltaïque ?
Alors oui, on peut le penser, et surtout quand, par exemple, ce ne sont pas des hangars, mais des serres, parce qu'on va soutenir que l'on produit en dessous de l'agriculture bio et que l'on peut également utiliser comme main-d'œuvre des personnes en réinsertion après avoir été condamnées à des peines de prison.
Éthique, bio et solidaire.
Exactement. Sauf que quand on recherche et qu'on fouille un petit peu l'histoire, on se rend compte que d'abord, ce n'est pas une vraie production bio dans la mesure où les panneaux photovoltaïques occultent la lumière qui pénètre dans les serres et donc il n'y a pas assez de lumière. Qu'ensuite, c'est une culture bio mais hors sol et donc le bio, les fruits, les légumes ne puisent pas leur richesse dans le sol. Et qu'enfin, ce n'est pas toujours vrai que le personnel employé est un personnel en réinsertion. Et là, nous nous trouvons aussi dans le même cas de figure, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui viennent appâter des agriculteurs, qui voient là enfin l'opportunité de faire construire ce qu'ils n'auraient jamais pu financer eux-mêmes, uniquement dans un but de produire de l'électricité à des fins strictement commerciales et financières, et certainement pas pour réduire le problème de couche d'ozone sur la Terre.
On est sur des terres agricoles.
Nous sommes toujours sur des terres agricoles. Et à chaque fois, parce que je mène un grand nombre de combats juridiques avec l'association ADER, à chaque fois, c'est en infraction avec les POS maintenant devenus plus dans certaines villes, mais pas dans toutes les villes. C'est-à-dire que comme nous sommes en zone agricole, on ne peut construire, l'agriculteur ne peut construire que s'il démontre qu'il a une impérieuse nécessité de construire et de se trouver à proximité de sa construction. C'est vrai pour les hangars et c'est vrai pour les maisons d'habitation. En ce qui concerne les serres, c'est bien plus vicieux que ça, parce qu'une serre n'est pas considérée comme une construction. Nous avons des énormes dalles béton qui sont construites au sol, avec des édifications qui ressemblent à des cathédrales tout en verre, c'est vrai, au-dessus. Mais en réalité, ça n'est pas de la construction à proprement parler. Donc les chaunes et les chaubes ne concernent que...
Les chaunes, les chaubes, attendez.
Alors, c'est les surfaces hors d'œuvre nettes ou surfaces hors d'œuvre brutes. Par exemple, la chaune, la surface hors d'œuvre nette pour une serre de 3 hectares, elle peut être que de 96 mètres carrés parce que ça va être le petit local attenant où on va installer le matériel, le système électrique, etc. Donc, pour les serres, c'est encore bien plus vicieux, parce qu'on peut voir tout à coup édifier à côté de chez soi 3 hectares, 4 hectares de serres à panneaux photovoltaïques qui occultent la lumière, qui empêchent l'eau de circuler, qui stérilisent des terres agricoles, alors qu'on n'a pas pu se rendre compte de ce qui allait être édifié, parce que le panneau indiquant la construction qui est affichée sur le terrain va faire apparaître que 90 mètres carrés, 95 mètres carrés, ce qui en soi peut ne pas être choquant.
Pourquoi est-ce que l'association ADER a choisi ce dossier-là, a choisi de se battre sur cette question-là qui est effectivement un peu étrange, Philippe Chansigo?
Pour revenir à ce que dit Maître Farge-Palais, c'est le mitage des espaces agricoles qui pose problème. Et donc l'extension de la ville passe par une construction à 1 kilomètre de là et on va remplir, on va faire en fait ce qu'on appelle des dents creuses entre la fin de la ville et puis toute son agglomération. Et on va donc jouer des constructions sous forme de lotissement, hein, ce qui est le cas quand on est dans la ruralité. Là, on est, pour revenir au cas initial du GAEC Lefebvre, on est sur une implantation donc d'une surface commerciale. Et la ville avait déjà décidé de mettre des espaces à disposition, des zones artisanales. Donc pourquoi créer une zone artisanale en dehors des zones artisanales qui ont déjà été affectées?
Oui, pourquoi ?
Pourquoi ? Ben là, visiblement, c'était pour rendre service à un copain. Donc, on a donné tous les moyens à ce copain pour qu'effectivement, il puisse créer sa propre zone. D'ailleurs, la procédure, et Maître Farge-Palais va pouvoir en parler, a été longue. Elle a tellement été longue que là, elle trouve en l'occurrence son épilogue à travers le TGI, puisque nous demandons aujourd'hui l'exécution, c'est-à-dire la démolition de ces bâtiments, après avoir effectivement obtenu l'annulation de l'ensemble des permis de construire. Donc on a été dans ce cadre-là obligé de faire une estimation par professionnel, huissier ou avocat expert, et on en est arrivé quand même à la modique somme de 2,6 millions. Donc, ce qui prouve que véritablement le jeu en valait la chandelle. Sur la base en fait de l'hectare qui est même là dans ces conditions à 50 ou 60 000 euros, la construction couvre à peu près 4 hectares ou 5 hectares effectivement avec les locaux techniques. Il y a une plus-value qui est phénoménale. Absolument phénoménal. Alors il y avait ce premier problème, et puis le deuxième qui était pour nous extrêmement important, c'est que c'était dans la ligne de paysage de la Montagnette, donc qui est un site inscrit et protégé. Donc il était hors de question de voir fleurir effectivement ce type d'activité.
Anne Farge-Balais, avant d'en venir à l'action que vous avez entreprise, j'aimerais peut-être que vous nous parliez un peu des protagonistes de cette histoire. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un agriculteur consentant. Il y a des autorités locales consentantes également. Et il y a, j'imagine, un tissu administratif qui entérine.
Absolument. Alors, dans notre cas de figure, nous avons un GAEC, qui est un groupement agricole, qui est constitué de plusieurs personnes, et en l'occurrence, une même famille. C'est la famille Lefebvre et Cerdan. Et toujours est-il que vous avez un maire d'une petite commune, qui est membre de ce GAEC et qui va faire une demande de permis de construire. Son gendre va aussi faire une demande de permis de construire pour construire concomitamment et à côté deux très grands hangars. Donc ils vont faire une demande et il va y avoir une instruction de ces demandes de permis de construire comme c'est l'usage, c'est-à-dire que les services techniques et de l'urbanisme de la ville vont étudier la faisabilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se situe en zone inondable? Est-ce que ça se situe en zone rurale? Est-ce qu'il est justifié cette construction pour les besoins de l'exploitation agricole? Est-ce que nous sommes ensuite dans une zone protégée ou pas? Est-ce que les règles en matière d'incendie et de sécurité sont respectées? Et on va également interroger l'architecte des bâtiments de France, parce que nous nous trouvons là en 2003, à l'époque où l'architecte des bâtiments de France devait être systématiquement interrogé.
C'est-à-dire que là, vous venez de nous énumérer un nombre de signaux d'alarme assez conséquents. Aucun n'a fonctionné.
Non, effectivement, aucun n'a fonctionné parce que ça s'est fait sous la houlette d'un maire. Il se trouve qu'un des associés de ce GAEC était en même temps maire d'une petite commune qui dépend de la commune d'à côté, qui devait délivrer le permis de construire. Et pour vous donner une idée de la collusion qui a dû exister, c'est que lorsqu'il a été découvert par ADER ces constructions sans permis de construire, il n'y avait pas d'affichage, ça a été d'ailleurs constaté par le commandant de police qui a dressé un procès-verbal de construction illicite, eh bien, ADER a fait délivrer un référé devant le tribunal de grande instance pour évidemment faire stopper la construction immédiatement. Et comme par hasard, la veille de l'audience, un permis de construire a été attribué à ce GAEC. Et dans le cadre des conclusions qui ont été développées par le GAEC, celui-ci a demandé des dommages et intérêts contre l'association ADER pour l'avoir perturbé, l'avoir dérangé, alors qu'il était évident qu'il avait un permis de construire. Et il s'est engagé à reverser ces dommages et intérêts aux orphelins de la police. Vous imaginez bien que j'ai demandé à maintes reprises à mon confrère de me justifier que les dommages et intérêts que ADER avait versés avaient bien été affectés aux orphelins de la police. Nous n'en avons jamais eu trace. Donc, cela explique certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a, et on va parler d'un autre permis de construire, il y a des permis de construire qui n'auraient jamais dû être attribués et qui l'ont malgré tout été. C'est-à-dire que nous avons un ensemble de personnes qui interviennent, mais qui sont quand même chapeautées par une ville, par un maire, et le maire passe outre. Dans notre cas de figure, à vrai dire, il n'y avait pas vraiment eu de décision contraire, que ce soit du SDIR, c'est-à-dire l'incendie, ou par exemple de l'architecte des bâtiments de France. Mais nous avons un autre cas contre lequel j'ai plaidé, où là, il n'y avait que des avis négatifs. Et même la préfecture a fait un déféré en enjoignant au maire de ne pas attribuer ce permis de construire. Et il a tout de même été attribué par le maire. Et la préfecture a donc diligenté une procédure parallèlement à celle d'ADER en annulation de ce permis de construire. Donc on voit bien que les maires sont rois en leur royaume. Ils peuvent décider d'attribuer des permis de construire là où normalement il ne devrait pas y avoir de construction.
C'est-à-dire que si je vous suis bien, s'il n'y a pas une association comme ADER qui réagit, ce genre de choses peut se produire absolument impunément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle à la distribution, à la délivrance de permis de construire indus.
Absolument. Quelquefois, la préfecture s'en mêle et je dois vous dire que la politique de la préfecture a bien évolué dans certains départements comme en, en Vaucluse, par exemple, où la préfecture fait des déférés systématiquement quand il y a des constructions agricoles dont elle estime que ces constructions ne sont pas en relation directe avec l'exploitation agricole. Mais en Bouches-du-Rhône, et en particulier dans cette région, dans la région de Tarascon, ça n'a pas été le cas. Et s'il n'y a pas d'association, ou un voisin mécontent de la construction qui s'édifie à côté de chez lui, tout passe comme si rien n'était et les constructions sont édifiées sans qu'il y ait de contestation.
Alors ceci dit, j'ai bien noté tout à l'heure que vous avez parlé de 2003, ça veut dire que vous êtes sur cette affaire depuis 11 ans. Ça demande une certaine patience.
Exactement, parce qu'il y a un petit jeu auquel s'amusent les pétitionnaires et constructeurs qui est le suivant. Dans notre cas de figure, il y a eu deux premiers permis de construire. On a eu l'annulation devant la Cour d'appel administrative et puis devant le Conseil d'État. La décision du Conseil d'État n'a été rendue qu'en octobre 2011. C'est-à-dire 8 ans après le début de la procédure. Parce que les procédures sont longues, les juridictions sont encombrées, particulièrement devant les tribunaux administratifs et la Cour d'appel. Entre-temps, bien que la Cour d'appel administrative ait annulé les deux premiers permis de construire, ils ont déposé un troisième permis de construire pour agrandir les deux premiers hangars. Et la commune a accordé les deux permis de construire qui ont été en deuxième temps. Troisième temps déposé. Et ils ont construit aussitôt. Donc il a fallu qu'on fasse une nouvelle procédure contre ce qu'on a appelé le PC3, c'est-à-dire l'agrandissement des deux hangars. Là également, une durée assez longue. Et 2 ans après, en 2012, puisque ça c'était en 2008, en 2012, on obtient la nullité. Ils ne relèvent pas appel, on est un peu étonné. Mais entre-temps, ils ont déposé un quatrième permis de construire. Et celui-ci avait une double vocation, agrandir encore plus les deux hangars, mais ce qui nécessitait la démolition du premier agrandissement, parce que les deux autres agrandissements étaient différents et plus grands. Et surtout, il demandait que les premiers permis de construire, les trois permis de construire annulés, soient régularisés. Donc, ils nous ont obligés à faire une troisième procédure en annulation de ce permis de construire. Et entre-temps, on a même fait un référé pour obtenir la suspension de la construction, parce qu'on s'est dit, s'ils construisent à nouveau l'extension des hangars, on ne s'en sortira pas. Et donc, on a fait un référé qu'on a obtenu, on a obtenu gain de cause. On a fait une procédure devant le tribunal administratif en annulation du quatrième PC. On a obtenu l'annulation et ils sont devant la cour d'appel. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, nous avons diligenté une procédure devant le tribunal de grande instance en démolition des trois premiers permis de construire. Et ça, ça les a affolés. Et du coup, leur argumentation en défense est de dire « Mais attendez, le quatrième permis de construire n'est pas définitivement annulé. On est devant la cour d'appel et après on ira devant le Conseil d'État. » Or, ce quatrième permis de construire, il a pour vocation de régulariser les premiers permis de construire annulés. Donc, vous ne pouvez pas faire démolir des bâtiments dont on ne sait pas s'ils seront définitivement annulés, dont les permis de construire seront définitivement annulés, alors que nous nous trouvons précisément dans des cas de figure où la régularisation est impossible puisqu'il y a une atteinte au paysage issu de la loi Grenelle de l'environnement.
Quel feuilleton !
Absolument. C'est un feuilleton à rebondissement, d'autant que l'enjeu pour eux est très important, puisque comme vous l'a dit le président de l'ADER, le montant des sommes de la valorisation de ces bâtiments est de 2,6 millions au bas mot, et qu'ils se battent comme des beaux diables pour éviter que ça ne soit démoli. Or, en France, nous sommes confrontés à une étrangeté procédurale. C'est que pour obtenir l'annulation d'un permis de construire, il faut aller devant les juridictions administratives, c'est-à-dire tribunal administratif, cour d'appel administratif, Conseil d'État. Et pour demander la démolition, il faut aller devant les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire tribunal de grande instance, cour d'appel et cour de cassation, chaque ordre prenant à peu près 10 ans de temps de procédure. Donc, ils gagnent du temps. Entre 2003, la date de la construction, et la date à laquelle on pourra peut-être faire démolir, il se sera passé 20 ans. Et eux, ils auront rentabilisé complètement leur construction.
Vous êtes de cet avis aussi, Philippe Chansigaud ? Vous pensez que lorsque les bâtiments seront enfin démolis, en fait, ils auront été totalement rentabilisés, ils auront servi leur but, finalement.
Ah oui, absolument, tout à fait. Non, mais là, Maître Farge-Palais a entièrement raison. Ils auront amorti le coût de construction, ils auront rentabilisé effectivement leur affaire. Mais bon, de l'autre côté, ils veulent quand même préserver leur foncier. Je pense que s'ils sont aussi pugnaces, c'est qu'ils tiennent effectivement à leur zone artisanale. Et ils mettent tout en œuvre, effectivement, pour essayer de l'obtenir. D'ailleurs, on voit bien le dernier comportement avec la régularisation sur des permis de construire, comme disait Maître Farge-Palais, qui ont donc tout été annulés. On ne peut pas régulariser quelque chose qui a été annulé, puisque ça n'existe plus dans son fondement, fait que, pour eux, ceci n'existe pas. Ils font fi, en fait, de la justice de la République.
Mais je disais en introduction que ce type de bâtiment, d'entrepôt, pullule un peu partout sur le territoire en France. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un regroupement des associations qui s'intéressent aux questions de paysage ? Est-ce que vous avez commencé à bâtir une défense commune ou en tout cas une protestation commune ? Ou bien est-ce que chacun, isolé dans son coin, doit se battre ? Parce que quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que c'est David contre Goliath, quoi.
Oui, encore que bon, là on a une solide armée et je trouve que notre engagement et surtout ce que nous avons réussi à obtenir auprès du Conseil d'État est remarquable, ça a fait jurisprudence.
Donc, mais David gagne, je vous rappelle. Hein.
Oui, exact. Donc de toute façon, il faut se rendre compte que là, ça va servir à toutes les associations. Cette jurisprudence-là, elle est extrêmement favorable. Et au sein de Terre Fertile, du regroupement en fait, des différentes associations de protection et de la préservation à la fois des espaces naturels et des espaces agricoles, on est extrêmement maillé. Donc à chaque fois qu'on est confronté effectivement à l'extension de zones artisanales ou de zones commerciales, on intervient. Et on intervient en groupement. Donc ça, c'est extrêmement important.
Anne Farge-Palais ?
Oui, alors je réagis en disant c'est l'action de toutes ces petites associations localement et donc je fais référence à une petite bible que j'aime beaucoup qui est Solution locale pour un désordre global parce que grâce à ces associations, déjà il y a des actions qui sont menées et qui sont véritablement des empêcheurs de tourner et de contourner la loi. Et ces associations, à un moment donné, elles se regroupent, mais toujours est-il qu'elles font peur et que certaines communes font de plus en plus attention parce que ces associations sont là et qu'elles veillent. Et grâce à ces actions judiciaires qui sont menées et que j'ai menées avec beaucoup de ferveur parce que je crois énormément à cette nécessité de protéger l'environnement, nous avons obtenu des décisions, comme le disait Philippe Chansigaud, qui font jurisprudence et qui sont utilisées par d'autres associations. Et le simple fait de savoir qu'il y a au moins dans cette ville, dans ce village, une association qui veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement et que les terres soient agricoles et les espaces naturels soient protégés, c'est extrêmement important.
Vous avez très bien décrit l'un et l'autre un processus dans lequel il y a une sorte de jeu de va-et-vient entre les protagonistes, entre ceux qui utilisent en quelque sorte tous les rouages de la justice pour continuer à construire leur hangar et puis vous-même qui utilisez également tous les rouages de la justice pour arriver à les contrer. La question que je me pose, c'est on est quand même dans un système, dans un monde, dans un univers changeant. C'est-à-dire que les lois évoluent, les jurisprudences évoluent et, me semble-t-il, les formes aussi d'utilisation du territoire évoluent. C'est-à-dire que ces entrepôts étaient absolument impensables il y a encore 15 ans. C'était même pas imaginable. Donc comment est-ce qu'on accompagne ce changement permanent ? Philippe Chansigaud.
D'abord, on peut l'accompagner quand on a effectivement un agrément.
En qualité d'association.
Bien sûr. À ce moment-là, on peut intervenir effectivement dans le cadre du PLU. Et des PLU aujourd'hui qui sont en train d'être mis en place sur l'ensemble du territoire français. Et ça, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'on peut déjà noter là, en amont, les dérives possibles. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut alerter toutes les associations. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser. Et là, je dirais, les pouvoirs publics, quand même, sont très à l'écoute. font extrêmement
attention. Mais si ce n'est que vous soulevez là un point un peu délicat, puisqu'on sait que ça devient de plus en plus difficile, justement, pour les associations de protection de l'environnement, et enfin les associations plus largement d'ailleurs, d'obtenir leur agrément.
Absolument. Ça a été notre cas, puisque nous, on avait initialement un agrément intercommunal qui a disparu, puisque le Grenelle faisait disparaître effectivement l'agrément intercommunal. Il a fallu qu'on réintroduise effectivement une nouvelle demande, hein, comme si nous étions une nouvelle association. Mais nous l'avons obtenu assez rapidement, c'est-à-dire en fonction déjà des combats que nous avions menés depuis une quinzaine d'années. Je veux dire, le dossier a été traité avec célérité. Sincèrement, en 6 mois de temps, nous avons obtenu effectivement notre agrément départemental.
Qui prend la décision ?
Le préfet, principalement, absolument, et les services de l'État, DREAL. Alors on est très impliqué dans certains dossiers de comité de suivi. Peut-être qu'effectivement les choses ont aidé dans le cadre de réhabilitation d'anciennes carrières aussi, CL3. Bon, peut-être qu'effectivement tous ces éléments-là ont été des éléments importants. Puis comme a dit Maître Farge-Palais, on avait un dossier très sensible, construction d'un agriculteur en plein milieu d'un espace naturel. Là, c'était inadmissible. Et la préfecture, en fait, nous a accompagnés dans ce dossier. Donc, quelque part, il y avait effectivement, je dirais, des intérêts communs.
Anne Farge-Palais, sur ce côté changeant.
Il y a quand même une grande évolution, je dirais, au sein des juridictions. Moi, je pense qu'il y a une véritable conscience environnementale chez les juges. Et je l'ai vu parce que les premiers dossiers que nous avons introduits, notamment en annulation de permis de construire dans des zones agricoles, le tribunal administratif de Marseille nous les a rejetés systématiquement. La cour d'appel quelques-uns, et ensuite j'ai vu le changement très clair de la position de ces juges, et notamment des rapporteurs publics, puisque quand nous sommes devant une juridiction administrative, il y a un représentant de l'État qui est le rapporteur public, et qui maintenant de plus en plus souvent va s'intéresser aux problèmes environnementaux. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors c'est curieux parce que nous avons véritablement des juridictions, des juges à l'écoute. Et d'ailleurs, je le vois bien parce que chaque fois que je vais plaider devant le tribunal administratif ou la cour d'appel administrative de Marseille, eh bien, l'association ADER pour laquelle je plaide est vraiment référencée, connue comme étant une association qui se bat pour la protection des terres agricoles et des espaces naturels. Et il y a même quelquefois des affaires qui sont plaidées avant les miennes où le rapporteur public fait référence aux positions de l'ADER et aux décisions qu'a obtenues l'ADER. Parallèlement, le législateur a un autre comportement, et notamment avec l'ordonnance du 18 juillet 2013 qui est venue modifier les procédures en matière d'urbanisme. Avant, n'importe qui pouvait faire une procédure en annulation d'un permis de construire. Aujourd'hui, on ne peut plus, c'est-à-dire qu'un voisin ne peut plus faire une procédure en annulation de permis de construire, sauf s'il démontre qu'il subit directement un préjudice de cette construction, alors qu'avant, il pouvait le faire dans l'intérêt commun, en disant bon, ben, cette construction, elle est sur un terrain agricole, c'est pas normal, etc. Ça, aujourd'hui, c'est réservé qu'aux associations, et en particulier aux associations agréées. Donc on voit qu'il y a, de la part du législateur, une restriction, une volonté de restreindre la possibilité de mettre en œuvre des procédures et donc de reporter sur les associations tout ce travail-là. Et puis ensuite, la fameuse ordonnance du 18 juillet 2013 a mis en place quelque chose qui est assez extravagant en matière de procédure administrative, c'est que celui qui est poursuivi en annulation de son permis de construire va pouvoir, par une demande devant la même juridiction, par voie de conclusion distincte, mais tout de même dans la même procédure, demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi. Donc vous imaginez bien que ça, c'est très réducteur au niveau de l'engagement des procédures, parce que celui qui va engager une procédure, je dirais pour le bien commun, il va se dire « Ah oui, mais je cours un risque, je ne vais pas le faire ». Alors, ce qui a priori avait pour vocation d'alléger le nombre de procédures devant les juridictions qui sont surencombrées, et puis aussi d'éviter, mais je ne crois pas que ce soit le plus grand nombre des procédures diligentées pour embêter son voisin, ça a quand même pour effet de réduire la sauvegarde de certains sites et notamment des zones agricoles. Alors, tout de même, il est précisé dans cette ordonnance que les associations agréées sont présumées le faire dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt de leur objet, conformément à leur objet. Donc nous sommes, les associations sont protégées, je dirais.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de dommages d'intérêt ?
Ce n'est pas clairement dit. On dit qu'elles sont présumées. Si quelqu'un veut demander des dommages et intérêts, il devra faire l'achat, il aura la charge de la preuve sur le préjudice qu'il a subi et sur le mal fondé de la procédure introduite par l'association. Mais ce n'est pas exclu.
David Gaborio, vous êtes sociologue, doctorant à Paris 1 et vous travaillez sur les entrepôts de la grande distribution, ces entrepôts dont on vient de parler et qui pullulent effectivement dans le paysage des campagnes, en général d'ailleurs sur des terres agricoles fertiles. Mais ce qui est très étonnant, c'est que si on les voit et qu'ils sont véritablement assez pénibles à l'œil, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Alors on pourrait essayer d'imaginer, parce que c'est vraiment le même modèle que toutes ces boîtes à chaussures qui ont poussé autour des villes et dans lesquelles il y a des commerces, des hypermarchés, des grandes enseignes. Si ce n'est que là, dans ces entrepôts de la logistique, on ne sait absolument pas ni comment ça se passe, ni comment c'est organisé. Vous, non seulement vous travaillez dessus, mais vous avez travaillé dedans.
Oui, alors la chose qu'on s'imagine et qu'on peut s'imaginer, c'est les grands rayons avec plein de colis, des très grands espaces carrés, ça on arrive un peu à se le représenter. Ce qu'on se représente moins, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans ces entrepôts qui vont manipuler tous les colis qui sont stockés. Et c'est un métier que moi j'ai été amené à faire en intérim quand j'étais très jeune au départ pour financer mes études. Et finalement, alors c'est un métier qui est peu connu de la plupart des gens, mais qui reste pourtant très connu d'une certaine partie de la population, c'est-à-dire des gens plutôt jeunes, dans des espaces plutôt périurbains, qui travaillent dans ces entrepôts, et il y a de très nombreux emplois. En France, ça représente, alors si on le voit d'une manière un peu large, à peu près 5000 emplois. Et ces gens-là circulent beaucoup d'un entrepôt à l'autre, ils connaissent très bien le fonctionnement.
Pas très connu parce qu'on a l'impression aussi qu'il ne peut pas véritablement y avoir de récit autour de ce qui se passe dans ces entrepôts. Là, en vous écoutant, j'imaginais une sorte de grand fouillis de circulation de yaourts, de briques de lait, de packs de fromage blanc, mais au-delà de ça, est-ce que vous pourriez nous décrire, vous avez parlé des immenses rayonnages, mais est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'on voit la lumière?
Alors, si on a du mal à se l'imaginer, c'est que c'est en partie caché, déjà, par la grande distribution, c'est sa face cachée, et aussi parce qu'on se représente l'ouvrier comme l'ouvrier de l'automobile ou des figures types de l'ouvrier, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans l'entrepôt. Alors, ce qui s'y passe, oui, c'est un balai permanent de chariots électriques. Par contre, il les place bien à la main, les colis, du rayonnage sur la palette, avec l'image d'une ruche un petit peu très active, où il faut respecter les délais, charger le camion à l'heure. Et il y a beaucoup de primes de productivité, donc il y a une rapidité qui se crée dans le travail, où il y a du travail très physique aussi, une intensité physique qui se ressent, qui se voit aussi, sur les corps et sur la façon dont les gens gèrent aussi leur fatigue. Et où il y a aussi une sociabilité très forte, on est dans des milieux ouvriers, alors relativement viril aussi, on peut dire, mais toute une sociabilité, une camaraderie, beaucoup de blagues et d'humour, et des choses qu'on pourrait retrouver dans d'autres milieux ouvriers également.
Tout de même, vous n'avez pas répondu à ma curiosité. Est-ce qu'on voit la lumière?
Alors, ça va dépendre des entrepôts. On la voit en partie, très souvent. Il y a des fenêtres tout en haut, donc on voit un petit peu la lumière, elle est assez faible, et la plupart de la lumière, elle est artificielle. Par contre, si on travaille très tôt le matin ou très tard le soir ou la nuit, c'est uniquement une lumière artificielle. Et l'entrée, la sortie, c'est vraiment une espèce de frontière. On rentre dans un monde à part qui est fermé, qui est contrôlé aussi. Souvent, il y a des portiques à l'entrée, comme on trouve dans les magasins, des vigiles également. C'est parfois très poussé dans certains entrepôts, comme ceux d'Amazon.
Ils contrôlent quoi ?
Ils contrôlent le vol, principalement. C'est très très peu, c'est pas quelque chose d'organisé forcément, mais ça fait partie un peu du jeu. C'est en partie accepté par les directions qui savent très bien ce qui s'y passe et qui parfois voient ça comme même une forme de récompense, de compensation. Donc ça serait presque une œuvre sociale pour eux que de le laisser faire. Mais voilà. Tout de même contrôlé.
Et juste pour finir de camper le décor, David Gaborio, il fait très chaud, très froid?
Alors pareil, ça va dépendre beaucoup du type d'activité et du type d'entrepôt aussi. Dans tout ce qu'on appelle le non-alimentaire, c'est-à-dire tous les objets qu'on trouve dans les supermarchés qui ne sont pas des aliments, il peut faire très chaud, et souvent il va faire assez chaud en été. Il fera très froid en hiver et très humide. Les entrepôts, c'est très grand, c'est ouvert. Il y a les quais où les camions chargent les colis, qui sont toujours ouverts. Donc il y a aussi des courants d'air et de la circulation en permanence de courants d'air. Et à l'inverse, il y a des entrepôts aussi de surgelés, où il fait très froid. Alors pour les fruits et légumes, ça va tourner autour de 7-8 degrés, parfois un petit peu moins. Et il y a des espaces surgelés où là, les températures sont jusqu'à moins 20 degrés. Et on travaille avec ces températures-là, avec des conditions très restrictives où du coup, on fait des périodes de travail très courtes et il y a des laps de temps qui sont accordés pour que le corps s'habitue un peu au froid et puis se reposer aussi parce que c'est très fatigant de travailler dans le froid.
Donc on vous autorise à sortir régulièrement, aller en salle de pause ?
Dans un entrepôt, il y a toujours une salle de pause, c'est une obligation légale. Ce n'est pas forcément le lieu de rencontre principal. Contrairement à une chaîne en usine où les gens sont postés sur un poste fixe, en entrepôt, on circule. Et il y a une partie de la sociabilité ouvrière qui se passe dans l'entrepôt, dans les allées, sur une palette, sur un tas de colis.
Je suis étonnée de vous entendre parler à ce point de la sociabilité, des échanges et des moments de blagues, de plaisanteries, de discussions entre les ouvriers, David Gaborio, parce que dans ce que j'ai lu de vous, que vous avez écrit, il semblerait que cette sociabilité soit très remise en question depuis un certain nombre d'années maintenant par l'arrivée d'outils modernes.
Alors oui, ce qui est important de souligner, c'est que ces formes de sociabilité-là sont très contraintes, notamment par les outils de travail et les nouveaux outils qui sont appliqués depuis les années 2000, c'est un peu la partie que j'observe plus précisément. Depuis ces années-là, dans la plupart des entrepôts, dans 70% aujourd'hui, sûrement un peu plus, des entrepôts de la grande distribution, les ouvriers travaillent sous commande vocale. C'est en fait un outil qui est très léger, qui paraît très simple. Tous les ouvriers portent un casque audio sur les oreilles et un micro devant la bouche. C'est une voix numérique qui leur dicte chaque tâche qu'ils doivent effectuer, c'est-à-dire chaque colis qu'ils doivent prendre dans les allées, et eux valident par reconnaissance vocale. Donc la machine va vous dire « commencez mission » et l'ouvrier répond « ok ». Allée 3, ok, on se rend dans l'allée 3. 3 colis, 1, 2, 3, on décompte et c'est automatiquement enregistré par la machine comme une tâche qui est effectuée. Et tâche suivante, d'une manière comme ça très très découpée. Et on le voit très rapidement, c'est une forme de travail qui est très individualisée. Alors ce qui peut être parfois apprécié par certains aussi, mais ce qui va avoir un impact sur le collectif et aussi à travailler vite. En plus de ça, il faut ajouter qu'on peut réguler le rythme de la voix. Et puisque c'est embêtant et puisqu'on doit travailler vite, on met le rythme, tout le monde utilise presque le rythme au maximum, ce qui donne en fait des signaux sonores plus que vraiment une voix qui parle. C'est très mal prononcé, quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas l'habitude de travailler, a de la peine à comprendre ce que va dire la machine.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape, la machine attend que l'ouvrier annonce qu'il a accompli la tâche pour passer à la suivante. C'est ça, elle ne reparle pas tant que l'ouvrier n'a pas dit OK.
Voilà, c'est ça. Alors, ce qui a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'on ne peut pas avoir aucune information sur le travail qu'on va faire. Il n'y a aucune anticipation possible. On connaît les tâches une par une, seulement une fois qu'on a réalisé la tâche précédente. Auparavant, ces ouvriers-là, ils travaillaient avec un listing papier sur lequel ils pouvaient consulter l'ensemble des colis pour une commande d'un magasin. Ce qui permettait en fait de jouer avec ça, de sélectionner certains types de colis, de circuler dans l'entrepôt dans le sens qu'on voulait, de construire sa palette, en fait, puisqu'on empile des tas de colis sur une palette, ces colis doivent tenir en équilibre. Et le fait de choisir les colis, ça permettait de mettre les plus lourds au début et d'agencer comme ça son travail à une forme de vision du travail. Il fallait faire des belles palettes bien construites. Et ça, c'était des savoir-faire aussi. Ça, c'est perdu avec ce fonctionnement étape par étape, point par point.
Les savoir-faire, un objet de fierté aussi.
Bien sûr, et du coup, quand ils disparaissent, c'est aussi un gros problème en termes de représentation du métier, de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on réalise un travail? Est-ce qu'on fait des palettes pour un magasin? Ou est-ce que seulement on empile des colis un par un? Quand on fonctionnait avec des outils de type listing papier, les préparateurs de commandes, pour réaliser leur travail et pour le faire bien, ils avaient besoin d'être en contact avec beaucoup de postes autour d'eux. Alors les chauffeurs, par exemple, les caristes aussi, qui sont ceux qui stockent les produits dans l'entrepôt. Il fallait comme ça connaître ses collègues et s'arranger avec eux pour faire le travail. Avec les nouveaux outils, avec l'informatique, avec les formes de gestion très fortes du travail, on n'a plus vraiment besoin de ça. De toute manière, on ne peut plus vraiment le faire. Aujourd'hui, essayer de travailler avec un collègue cariste ou avec un collègue chauffeur, ça pourrait être presque une contrainte plus qu'autre chose. Pour bien faire ce type de travail avec ce type d'outils, il faut suivre le rythme sans trop se poser de questions et faire les tâches une par une. Une autre répercussion de l'outil, cette fois plutôt indirecte, c'est qu'avec ce type d'outil, ça va vite, c'est plus intense, il y a moins besoin de qualifications. Donc il y a un changement du personnel qui va se produire à travers ça, notamment un rajeunissement du personnel avec beaucoup de turnover. On reste de moins en moins longtemps dans ces entrepôts, ce qui fait qu'il y a moins cette ancienneté qui permettait aussi de connaître les autres, de savoir ce qu'on faisait et petit à petit d'apprendre des choses et de développer des savoir-faire sur son travail.
Tout ce que vous racontez évoque des images d'atomisation, de fragmentation, comme si les gens étaient de plus en plus distants les uns des autres. Et puis surtout, ce qui est très frappant, me semble-t-il, c'est dans ce système de commande vocale, en fait, ça fait penser un peu au GPS qui envoie les gens sur les routes sans qu'ils s'inquiètent plus jamais du trajet. Ils veulent juste arriver quelque part, mais sans savoir par où ils passent.
Et oui, le parallèle avec le GPS, il est intéressant. Alors, des deux côtés, du côté perte de savoir-faire, où on n'a plus besoin d'utiliser ses propres savoir-faire pour se repérer ou pour travailler, mais de l'autre côté aussi, du côté surveillance et contrôle. Que ce soit avec un GPS pour les chauffeurs routiers, par exemple, pour qui c'est quelque chose de très fort, ou avec un outil comme la commande vocale, c'est très simple de savoir où se trouve la personne à un instant T, d'évaluer son travail à chaque fois que l'ouvrier valide une tâche. Cette tâche, elle s'affiche sur le logiciel, et les responsables d'équipe, dans leur bureau, sur un écran d'ordinateur, peuvent contrôler à chaque moment ce que font les gens, le rythme auquel ils le font, et où ils sont dans l'entrepôt.
David Gaboriau, vous avez vécu cette arrivée de la voie numérique. Et vous dites qu'en quelques années, le travail s'est transformé et en particulier, la fatigue est devenue une forme d'épuisement et de pathologie.
Alors, c'est des milieux de travail qui ont toujours été physiques et difficiles. Le transport de colis, alors que ce soit les anciens entrepôts dans les années 50-60 ou jusqu'au fort des Halles qui transportaient les carcasses avec des poids énormes, c'est des métiers extrêmement physiques. Sauf que le rapport à l'intensité physique, il se modifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va peut-être pas transporter des poids très très lourds, mais on en transporte beaucoup, on transporte beaucoup beaucoup de colis, sur des journées de travail avec un rythme très intense, des pauses qui sont assez courtes, avec une voix qui nous dicte tout ça. La voix, c'est une réduction de l'autonomie. Et on sait très bien aujourd'hui que dans tous les métiers où il y a très peu d'autonomie, on retrouve des répercussions ensuite en termes de santé. Et on le voit dans les chiffres, il y a une augmentation très forte des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ne sont pas uniquement liées à la commande vocale, mais la commande vocale va venir renforcer ça. En tout cas, elle va peut-être le rendre inacceptable. Juste peut-être pour finir là-dessus, elle le rend inacceptable au sens où le fait que le groupe est perdu de sa force, le collectif est perdu de son intensité, ça aussi, ça a des répercussions en termes de santé. Le travail individualisé, il se répercute en termes de santé. Le collectif, il n'est plus là pour supporter ce qui, auparavant, pouvait être supporté grâce au collectif. Donc ça aussi, c'est important.
Je voudrais que vous citiez le chiffre, parce que les chiffres que vous donnez sur le nombre d'accidents comparés au BTP, c'est tout à fait impressionnant.
Aujourd'hui, les chiffres des entrepôts sont en phase de se rapprocher, voire même de dépasser dans certains endroits, les chiffres du BTP. Donc c'est bien le signe que le travail, en tout cas dans ce secteur-là, il est en train de devenir pathologique, il crée des formes de maladies. Alors, pas une maladie en particulier, il n'y a pas une maladie du préparateur de commandes, c'est un ensemble de maladies, qui sont des problèmes physiques. Alors, c'est tous les membres du corps qui sont mis en activité dans la préparation de commandes, les articulations, beaucoup, les coudes, le cou, le dos, bien sûr, les genoux également. Et finalement, plus que des maladies en tant que telles, bien répertoriées et faciles à classifier, en fait, c'est de l'usure. Les gens sont fatigués, sont usés par ce type de métier.
Mais oui, mais vous disiez, David Gaboriau, que ça a toujours été un métier très physique et très fatigant. Et là, on voit des chiffres en progression, on voit de l'usure justement arriver là où il y avait seulement de la fatigue ou de la pénibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est cette histoire de commande vocale? Est-ce que c'est une sorte d'emballement des rythmes de travail?
C'est des transformations qui sont liées non pas seulement à la commande vocale, mais au changement des modes d'organisation en entreprise. Alors, il y a plusieurs points qu'il faudrait essayer de regrouper ensemble pour comprendre ça. Alors, certains qu'on a déjà vus, l'individualisation, le collectif n'est plus là pour soutenir ce qui auparavant pouvait être soutenu par lui. La perte d'autonomie, ça c'est très important. Quand on a un savoir-faire, quand on développe un savoir-faire et qu'on a certains gestes au travail, qu'on sait utiliser une forme de liberté dans ces gestes, on arrive à s'accommoder d'un certain type de rapport à l'intensité physique. On arrive à s'accommoder des poids soulevés. Il y a aussi les tâches qui se sont concentrées sous l'effet de ces nouvelles technologies-là. Dans les entrepôts, il y a tout un tas de tâches de type administrative qui existait auparavant, qui était en partie rempli par des ouvriers. Alors ça pouvait consister à signaler un problème dans l'entrepôt, à prévenir un responsable que tel emplacement n'est pas juste ou qu'il n'y a plus de produits dans tel emplacement, à remplir des fiches pour expliquer ce qu'on fait. Tout cet ensemble de tâches administratives, alors on pourrait en citer beaucoup, hein, mais il tend à disparaître sous l'effet des nouvelles technologies. Alors pas directement cette fois de la commande vocale, mais sur quelque chose qui surplombe un peu la commande vocale, mais c'est l'utilisation des logiciels de gestion d'entreprise. Et puisqu'il n'y a plus toutes ces tâches-là, aujourd'hui, le métier tend à se resserrer autour de la préparation de commandes, autour du geste très simple et répétitif qui consiste à prendre un colis et à le déposer sur une palette. Donc on voit bien qu'on a beau alléger les produits, faire des formations sécurité, santé, ici la nouvelle technologie, elle tend à réduire le travail à ce simple geste de préhension, répété, de manière très intense. Et c'est ça qui, au final, crée de la fatigue et crée de l'usure.
Mais est-ce que, du côté des gestionnaires, vous parliez tout à l'heure de ces logiciels de gestion, il y a une prise en compte de toutes ces difficultés nouvelles que vous avez évoquées? Et est-ce qu'il y a une réflexion sur une manière d'aménager les choses?
Alors, l'aménagement qui se fait aujourd'hui, c'est principalement par la santé. Puisqu'en fait, l'outil, il est aménagé sur des critères de rentabilité, de productivité, de qualité aussi, ça c'est très important. Et il n'est pas aménagé à l'échelle de l'entrepôt. Une nouveauté avec ces nouveaux outils, c'est que les gens qui créent l'outil, qui le conçoivent, c'est des gens qui sont très éloignés du monde de l'entrepôt. C'est des ingénieurs, des informaticiens qui vont créer des logiciels et qui vont les mettre en place sur un très grand nombre d'entrepôts, mais pas seulement. Le logiciel, il est capable de s'adapter à plein de types de métiers. Et du coup, il y a un éloignement très très fort. Et si on a moindre problème avec le logiciel de l'entrepôt, on se retrouve à appeler des spécialistes, experts en Suède ou dans des pays très éloignés qui répondent par téléphone. Donc il y a un éloignement très très fort. Donc le travail en lui-même, c'est déjà quelque chose qui est presque plus discutable. On ne peut plus discuter de la manière de faire son travail. Ça me semble un point vraiment essentiel. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Les syndicats non plus n'en parlent plus. C'est plus un débat aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait le travail. Ça, c'est quelque chose qui, de fait, est imposé et on n'en débat plus. Ce qui est débattu, par contre, c'est la santé. Ça, c'est quelque chose de très très fort aujourd'hui. Parce qu'il y a une augmentation des arrêts de travail, des maladies professionnelles, que, de fait, ça coûte cher. C'est pas seulement une préoccupation en termes d'image, hein. Ça coûte cher, donc il faut le régler. Et en plus, la grande distribution, elle a besoin de cette main-d'œuvre-là. Elle a besoin que ça fonctionne. C'est essentiel dans sa chaîne logistique que le geste des préparateurs puisse être fait en permanence. Donc la santé, c'est un angle d'attaque très très fort. Le souci, c'est que la santé, aujourd'hui, elle a tendance à s'orienter vers un traitement individuel des cas. Donc on va traiter le cas individuel, celui qui crée problème, la personne malade, plutôt que d'avoir une réflexion plus globale. Et que très souvent aussi, un axe qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, on a tendance à responsabiliser les personnes de leur maladie professionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir en termes d'organisation, ce qui va être très coûteux, ou en termes d'outils ou de façon de faire le travail, on responsabilise la personne, on lui impose par exemple des formations, ce qu'on appelle les formations gestes et postures, quelque chose de très présent aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les préparateurs de commandes, un cas classique, c'est qu'on va leur demander de plier les genoux plutôt que de plier les dos. Sauf que si on plie le dos des centaines de fois par jour, ça fait mal au dos. Si on plie les genoux des centaines de fois par jour, ça fait mal aux genoux et non plus au dos. Mais voilà, il y a ces formes de responsabilisation qui sont vraiment un angle important aujourd'hui de la santé et qui est un peu dangereux parce qu'on oublie de traiter le travail, on traite l'individu.
Et puis surtout, on parle du sacro-saint stress.
Par exemple, on va introduire des catégories qui sont aussi des catégories responsabilisantes et très individualisantes. Le stress est quelque chose qui est lié à l'individu. Quelqu'un qui est stressé, bien sûr, c'est en partie lié à son travail, mais on va regarder du coup sa famille, son environnement, ses loisirs, pour savoir si il n'est pas trop stressé aussi à cause de ça. Donc on va appliquer des catégories comme ça, qui s'appliquent assez mal au monde ouvrier. Hein. Les ouvriers à qui on parle de stress ne comprennent pas, eux sont plutôt très distants de ces catégories-là. Mais on les applique comme ça aux ouvriers. Ce qui peut être fait aussi, par exemple, dans le même ordre d'idée, c'est qu'on va essayer de surveiller la nutrition, par exemple. Aujourd'hui, les nutritionnistes sont présents dans certains entrepôts et on regarde si les problèmes alimentaires ne peuvent pas être liés aussi aux problèmes de santé. Donc, on ne regarde pas uniquement le travail, mais aussi le hors-travail. Le sport, le type de sport que vont faire les préparateurs de commandes. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire embaucher comme préparateur de commandes auprès d'une agence d'intérim, il ne faut pas dire, par exemple, que vous faites du foot. On va se méfier des footballeurs parce qu'on sous-entend que le footballeur, il se blesse le week-end et le lundi, quand il arrive en entrepôt, il fait semblant de s'être blessé au travail pour créer un accident du travail. Donc il y a une suspicion comme ça permanente qui se crée à l'égard de la santé. Donc ça peut être aussi une forme de gestion, la santé, et pas seulement une forme de soins et de prévention pour l'entreprise. Et il faut faire attention à ce biais-là qui est important aujourd'hui.
Il me semble... Pour conclure, que ce que vous décrivez là, David Gaboriau, c'est aussi toute une politique qui vise à adapter les ouvriers à leur travail et non plus l'inverse.
Voilà, c'était tout à fait l'inverse. Et alors, une autre chose qui montre très bien ça, c'est qu'aujourd'hui, un autre angle qui se développe par rapport à la santé, c'est l'utilisation des nouvelles technologies pour faciliter le travail, pour accompagner le corps dans son travail. Ça, c'est très présent aujourd'hui. Les entrepôts font partie des secteurs où ça commence à être mis en place. C'est par exemple la mise en place d'un exosquelette, c'est-à-dire d'une machine sur le dos qui va accompagner chacun des mouvements du préparateur de commande. Donc on voit bien là qu'un problème qui est en partie créé par la technologie, pour le solutionner, on va ramener encore de la technologie et considérer à chaque fois que c'est l'humain qui pose problème et c'est l'humain qui est trop faible pour ce type de métier. Ce qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui, c'est l'utilisation de câbles qui sont reliés au chariot. Alors ça ne se fait pas beaucoup, mais ça s'est mis en place. Un câble qui est relié au chariot, l'ouvrier a une bague sur le doigt. Quand il appuie sur la bague, le câble se détend, il prend le colis, et quand il relâche la bague, le câble l'accompagne vers son chariot. Donc c'est encore l'idée d'accompagner le corps pour faciliter le geste et pour qu'il y ait moins d'accidents du travail. On voit bien encore qu'en termes d'autonomie, c'est quelque chose de rajouté encore en plus. Et non seulement on gère les individus, on gère leur productivité, mais on peut aussi gérer leur corps. Et ça peut être une autre forme de contrainte pour ces ouvriers-là.
Exactement comme celui d'une marionnette.
Alors là, on a un peu une impression de marionnette qui est assez forte. On essaye d'en faire des marionnettes. Mais il faut toujours se rappeler que ces gens-là, ce n'est pas des marionnettes, qu'eux, ils peuvent réinvestir leur travail, y trouver du sens, développer une sociabilité et aussi résister à ce travail-là. Et on n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler, mais il y a des formes de résistance qui se développent, très souvent au niveau individuel. Le vol, ça en fait partie, mais ça peut être aussi le sabotage parfois des outils, le contournement de la machine. Et les individus résistent. Par rapport à ça, le problème, c'est que c'est une résistance qui se fait à un niveau très, très individuel, ce qui est lié aussi au statut de ces personnes-là, à l'intérim, à leur rotation permanente et à leur situation dans le monde du travail. Aujourd'hui, l'humain, en fait, il est en phase de devenir un problème, en fait. Ça devient un problème, le corps ne suit plus, et c'est la limite aux nouvelles technologies qui sont mises en place. Du coup, il y a une forme de perception du travail qui se développe chez les responsables, c'est que on s'imagine, alors peut-être que c'est le cas, mais c'est surtout une forme, pour l'instant on se l'imagine, que dans quelques années on pourra automatiser entièrement les entrepôts. Il y a des tests qui sont mis en place, il y a déjà des entrepôts qui sont entièrement automatisés en France, et c'est vraiment perçu comme une porte de sortie à un problème qu'on n'arrive pas à régler et qui pose vraiment problème pour les responsables. Donc l'idée dans tout ça, c'est que pour solutionner ce problème-là, il faudrait réussir à faire fonctionner un entrepôt de façon presque entièrement automatique, avec très peu d'ouvriers, et du coup évacuer l'humain dans le travail.
Voilà, Terre à Terre, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez télécharger et réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Le numéro de téléphone de Terre à Terre, c'est 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Lenpin, Anne Gouzon, mixage, Valérie Lavalard, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.